Bonjour à toutes et à tous et merci d'être parmi nous ce soir. J'ai organisé cette soirée avec un grand plaisir, avec les éditions de l'Olivier, pour fêter les 20 ans de cette maison d'édition. C'est une tradition de longue durée à la BPI d'accompagner les éditeurs dans leur travail de création et d'accompagner les auteurs. J'ai eu donc le plaisir d'organiser cette soirée avec Virginie Petracco, qui est ici et que je remercie, et Olivier Cohen, qui est PDG de la maison d'édition, fondateur, et qui va vous dire quelques mots. Cette soirée se présentera en deux volets. D'une part, nous allons avoir le plaisir d'entendre une vingtaine d'auteurs parmi tous ceux qui composent cette jeune maison d'édition. Donc 20 auteurs qui vont lire chacun un extrait de leur dernière œuvre. Puis ensuite, une table ronde rassemblera autour de Sylvain Bourmeau, Olivier Cohen, Adam Stirwell et Marc Anfreville. Je vous remercie et donc je vous souhaite une excellente soirée.
Bonsoir. Donc, comme on vient de vous le dire, la première partie de cette soirée est une lecture ou plutôt une série de lectures d'un genre à peu près inédit, puisqu'en général, quand un auteur lit, il est seul. Et là, ce soir, il y a un certain nombre d'auteurs qui vont se succéder, et l'un après l'autre, ou l'une après l'autre, lire quelques pages d'un de leurs livres. Quand je dis un certain nombre d'auteurs, je vais être plus précis. À l'origine, Emmanuel Payen avait proposé que 20 auteurs viennent lire pour les 20 ans des éditions d'Olivier. C'était une jolie idée. Et bien entendu, il en manque un. Donc vous allez entendre ce soir 19 auteurs. Et je vous dirai ensuite quel est l'auteur qui manque. Donc ce soir, par ordre d'apparition, vous entendrez Geneviève Brisac, Thierry Hess, Natacha Apana, Valérie Zenati, Olivier de Solmignac, Belinda Cannon, Jérôme Lambert, Karine Ressé, Yakuta Alikavazovic, Jean-Hubert Gaillot, Fanny Chiarello, Denis Grosdanovic, Florence Sevos, Shumona Sina, Antoine Volodine représentant Manuela Dreger, Dominique Souton, Christian Auster et Véronique Ovaldé et Patrick Bouvet. Et le vingtième était Jean Hatzfeld. Et comme toujours, il faut un absent. Et ça ne pouvait être que Jean Hatzfeld, puisque c'est un homme, un écrivain remarquable et qui a l'habitude, en général, quand on l'invite, il dit toujours oui et puis il annule. Et donc, Jean, où que tu sois aujourd'hui, ne t'inquiète pas, nous t'aimons tous. C'est un peu comme si tu étais avec nous ce soir. Et tu seras le 20e dans nos pensées. Et voilà, maintenant je laisse la place à ces 19 écrivains qui vont chacun lire quelques pages d'un de leurs livres, en général leur dernier livre. Merci.
Je vais vous lire un extrait de Une année avec mon père. Ça commence ainsi. Nous ne voulions pas de ce passé qui nous incombe, nous l'avons refusé de toutes nos forces. Nous ne voulions pas nous expliquer sur nos origines juives, ni sur l'abandon que nous avions pratiqué de toute religion. Nous ne voulions pas avoir de comptes à rendre sur la richesse perdue, puisqu'elle n'était plus, sur la richesse passée, puisqu'elle nous gênait. Et s'il y a honte à être plus riche que les autres, parfois il y a honte aussi à être des héritiers désargentés par leur légèreté, leur incurie, leur philanthropie mal placée. Alors le mieux, pour ne plus se sentir coupable et entravé, était encore de se choisir sans passé. Être sans passé, n'en rien transmettre, ni faute, ni douleur, à nos enfants, c'était, croyons-nous, nous rendre plus libres, tournés vers l'avenir, disponibles pour le futur. Le résultat a été l'ignorance, Ne pas savoir qui nous sommes et notre patrimoine commun, cela pèse, cela nous torture, cela nous empêche de vivre. Nous imaginons des crimes qui n'ont sans doute pas existé, nous accusons de fautes que nous avons inventées. Je sors sous la pluie, à la recherche de la cause des origines perdues, je me trouve trempée face à l'océan boueux, aux vagues moutonneuses. Francette, qui se prénomme peut-être ainsi pour honorer le pays qui nous a adoptés il y a maintenant plus de 200 ans, m'a suivie. Elle me tend un ciré jaune. Nous naviguons de conserve sur les flots agités de nos mémoires floues. Nous sommes désormais assises sur un rocher. Nous contemplons la mer furieuse qui prend d'assaut la falaise. Des rafales de vent mouillé nous giflent. Nous serrons plus fort nos capuchons jaunes. Chez nous, on ne pose pas de questions. Par politesse, pour ne pas déranger, par peur des réponses, pour ne pas perdre de temps, le temps précieux dévolu à l'avenir, au travail d'accouchement de l'avenir, ou pour échapper à plusieurs générations de contrôle absolu sur les vies. Tu comprends, dit ma cousine, l'avenir est la réponse, le progrès est la réponse, la science est la réponse, le bien commun est la réponse, les autres, leur bien-être, leur souffrance à travers la terre entière, c'est la réponse. Ne pas se poser de questions était la réponse, et sincèrement, tant que ça marche, ce n'est pas une mauvaise façon de vivre. Un peu comme les vers de terre sectionnés qui continuent leur route, j'avance, j'avance, nous avançons, pas plus mal. Même pas mal eût été notre devise, notre slogan, en apnée certes, et pourquoi pas. Tu crois que cela peut durer toujours, dis-je. C'est déjà fini, le temps des questions est arrivé.
Durant les semaines suivantes, j'ai vu presque chaque jour Zainab. Tantôt chez les Maïbek, tantôt dehors, où elle marchait toujours du même pas décidé, ses bonds de patineur, avec ses cheveux noirs et nattés en arrière, aucun foulard ne les couvrant jamais. Porter dans Grosny un foulard sur la tête, c'était courir le risque d'être inquiété par les soldats. Et néanmoins, à cause de son allure, ses pommettes hautes, ses nattes droites et dures comme des manches à grenades, son pelage de renard, je sentais chez Zainab une audace bien plus grande que le fait d'affirmer sa croyance. Le soldat russe moyen, pensais-je, ne fait pas de sémantique religieuse. Il se moque du symbole du foulard. Une fille peut se promener tête nue et cacher sous sa robe une ceinture d'explosifs. Mais Zainab, dans sa marche solitaire, avec sa beauté indocile, révoltée, représentait pour eux un gibier d'une espèce différente. Et malgré tout, n'y avait-il pas dans l'indépendance et le cran de cette femme qui, chaque matin, quittait son domicile pour dénicher de quoi manger et se chauffer, un pari sur la guerre? Ce pari que la guerre et son cortège de cruauté offrent parfois une liberté nouvelle à une jeune femme capable de repousser la peur face à celle des soldats. Zainab l'avait compris. Son logement se trouvait à 20 minutes à pied de l'appartement des Maïbek. Elle y vivait avec sa mère malade et une jeune sœur de 14 ans. En observant Zainab, je n'ai pas tardé à imaginer Elena. J'ai songé à des ressemblances qui, à l'évidence, n'étaient pas liées à des caractères ethniques ou culturels, encore moins physiques, d'autant que je n'avais qu'une vague idée du beau visage d'Elena. Non, si Elena la Russe et Zainab la Tchétchène présentaient quelque chose en commun, c'était leur condition. La condition d'une femme possédant la jeunesse, la beauté, le courage, et qui avait à protéger les siens dans un pays en guerre. Quoique protéger s'agissant d'Elena ne soit pas le mot juste, j'ai plusieurs fois pensé que Franz aurait fui Stavropol si Elena l'avait voulu. Or la confiance qu'elle avait en Staline l'aveuglait. Assez, je crois, pour qu'elle choisisse de ne rien changer à son existence jusqu'à l'arrivée des Allemands. Elle croyait au parti, en l'armée, à la terre, aux saisons, à l'inusable résistance du peuple russe. Mais dans cette guerre, aucune année n'a ressemblé aux autres. Il y a eu des années de défaite avant les années de victoire. En juillet 1942, pressentant son destin, elle s'était résignée pour Lef, l'abandonnant à la famille Kubov. Pour elle et Franz, alors, il n'était plus temps de partir, ni même de se cacher. Peut-être a-t-elle seulement nourri l'espoir qu'ils ne soient pas les premiers sur la liste. La témérité de Zainab était aussi liée à un aveuglement. Et l'affection que j'éprouvais pour la Tchétchène tenait à cette autre ressemblance avec ma grand-mère Elena, même si celle-ci gardait toujours une apparence un peu fantomatique. Certes, l'histoire que m'avait racontée mon père avait changé la donne. J'étais son fils et lui le fils de cette femme disparue quand il avait 9 ans. En disant « ta grand-mère », il avait su créer entre Elena et moi un lien que la guerre avait empêché d'exister. C'était une façon de me dire « tu proviens d'elle, Pierre. Elle t'appartient et tu lui appartiens. » Le lien était plus affectif que génétique, plus subjectif qu'objectif. Je peux dire les choses autrement. Pour être grand-mère, il faut que votre enfant ait lui-même un enfant. Or, l'unique petit-fils d'Elena que j'étais était venu au monde près de 20 ans après la mort de sa grand-mère. J'étais un petit-fils imaginaire et elle une grand-mère post-mortem. Elena, je l'ai dit, est morte à 32 ans. Et en décembre 2001, en venant à Grosny, j'avais passé la quarantaine. J'étais à présent plus vieux qu'elle. Qu'est-ce que je pouvais retrouver chez Zainab ?
Les mots se bousculaient dans ma gorge, sortaient de ma bouche en désordre, comme un rêve lorsqu'on essaye désespérément de parler, et j'aurais souhaité qu'ils comprennent ma langue maternelle pour que les paroles coulent plus facilement, pour que je puisse lui dire le mot exact, le sentiment juste. Alors, je me suis tue pendant qu'il me fixait avec des yeux immobiles et secs, son visage blanc, sa bouche striée de rouge, et je m'attendais presque à ce qu'il me frappe. Des larmes silencieuses ont coulé sur ses joues de façon si brutale que j'ai eu peur que cela ne s'arrête jamais. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il était immobile comme moi, je l'étais d'habitude, et je crois que c'était le chagrin qui nous donnait tant de raideur au corps. Dans le buisson à côté d'un David, immobile et en colère, me vint l'idée saugrenue et insoutenable que j'avais peut-être été heureux là-bas, dans le taudis de ma poue. Mon cœur battait plus vite et je me sentais perdue, comme au bord de l'évanouissement. Un poids me pesait sur l'estomac et un sentiment diffus, dont je ne pouvais, à l'époque, identifier la nature exacte, m'envahissait. Je crois que tout ce que je vivais depuis la mort de mes frères, chaque instant passé dans la maison au fond des bois, mes après-midi consacrés à la prison, la violence de mon père, notre vie à trois, la scène terrible à laquelle je venais d'assister, je crois que tout cela m'éloignait de mon enfance, et si même celle-ci n'avait pas été reluisante, je m'y accrochais encore et encore malgré tout. Ce sentiment comme une nausée qui monte et qui descend, c'était la perte de l'enfance et la conscience que plus rien ne me protégerait désormais du monde terrible des hommes. Je ne savais pas quoi faire et pourtant je ne pouvais pas rester là. Je me suis donc levée et j'ai regardé David. Les larmes avaient coulé deux lignes sur son visage sali par la boue et la poussière. Il s'est levé aussi et voilà. Sans un mot, sans un sourire, sans un regard, il m'a suivi. Il restait derrière moi et je n'avais de cesse de me retourner pour m'assurer de sa présence. Dans la forêt, il s'est rapproché de moi, je crois qu'il avait peur. Nous marchions sur des branches, des troncs à terre et ce sol-là n'était pas très solide. David glissa sur des branches humides et s'étala de tout son long. Alors, je lui dis ces mots-là, exactement cela, dans cet ordre-là. Reste avec moi, fais comme moi, et nous n'allons pas nous séparer, c'est promis. Ce ne sont pas des mots extraordinaires, mais je me souviens que je les avais séparés en les prononçant, comme si je soupesais chacun d'entre eux, comme si j'apprenais à les dire pour la première fois. Et pourtant, je n'avais pas réfléchi. Cette phrase simple m'était venue naturellement, car c'est ce que mes frères m'auraient dit et c'est ce que moi j'aurais dit à mes frères s'ils avaient eu besoin de moi. La tension qu'il y avait entre nous, nos visages figés, sa colère, ma honte, tout ceci s'est dissipé tranquillement dans la forêt. Et pendant les jours qui suivirent et que nous allions passer ensemble, jusqu'au bout, je suis restée avec lui. Je l'ai protégé du mieux que j'ai pu. Et il s'en est fallu de peu pour que je respecte ma promesse tout entière comme un homme de parole.
Dors, pardon. Pardon de quoi ? Pardon d'être en colère. Mais c'est parce que tu es en colère que nous sommes vivants.
Comment le sais-tu ?
Moi aussi, je sais des choses parfois, murmure-t-elle en fermant les yeux.
De toute façon, la mort n'existe pas, reprend Erwin.
Comment ça ?
Il ne répond pas.
Les jours qui suivent, ils sont ballottés entre la tendresse et le découragement, le goût de la viande dans leur bouche et le souvenir du garçon enfoui sous la neige. Ils se demandent parfois qui, de lui ou d'eux, a le plus froid. Ils chassent de leurs yeux l'image du corps raide, mais c'est un corps lourd et têtu qui ne veut pas disparaître. Ils perdent toute notion du temps. Le vent s'est levé et souffle un mélange de cendres et de neige. Ils ne distinguent plus du tout la nuit du jour, l'aube du crépuscule. Les loups reviennent, plus nombreux, et les hommes aussi. Ils sont alliés, ils hurlent ensemble et décrivent des cercles autour des arbres. Le vent de la tempête emporte leurs cris dans des bourrasques anarchiques. La forêt tout entière hurle, il ne leur sert plus à rien de se boucher les oreilles. Ils ne peuvent plus allumer de feu, ils ont à peine la force de mordre dans le morceau de viande. Ils se cherchent du regard, sans relâche, et s'agrippent l'un à l'autre pour ne faire qu'un seul corps. Ils n'ont plus peur, n'ont plus conscience du danger, précisément au moment où le danger les encercle. Des milliers d'hommes et de loups se sont déployés dans la forêt, où l'on devine que deux enfants se cachent. « Ces enfants sont une menace pour l'humanité », a grondé le chef de la meute. « Je veux les voir morts sous mes yeux, eux et les derniers de leurs semblables. » La chasse est à son apogée. La soif de tuer est plus forte que la tempête. Elle fait tenir les hommes qui titubent sur les rafales, mais tuer est leur raison de vivre, de rester debout et d'avancer. Ils ont ce but qui les retient de flancher. Il paraît qu'il y a deux enfants vivants dans la forêt. Ça devient une obsession. Un seul cri parcourt les meutes et les troupes. À mort les deux enfants. Mais les deux enfants n'entendent plus rien. Lui a plongé dans ses yeux noirs. Elle a plongé dans ses yeux bleus. Leur vie tient à ça. Au reflet qu'ils captent l'un chez l'autre. Au souvenir que contiennent ses yeux agrandis dans leur visage amaigri. Elle voit dans son regard son père, sa mère, ses grands-parents, tels qu'il les lui a décrits. Il voit dans ses yeux son père, sa mère, ses grands-parents, tels qu'ils ont vécu, loin d'ici. Ils s'accrochent ensemble à ceux qui les ont mis au monde sans être capables de les protéger et puisent dans leur visage la force de tenir. Ils savent que leur vie tient à ce qui les unit depuis la première nuit, quand il est venu l'aider à porter son seau. La tempête souffle de plus belle. Les arbres de la forêt plient comme des épis de blé, sauf l'arbre calciné, amputé de sa cime, qui reste droit et tremble. La neige et la cendre tourbillonnent en sifflant. Les balles claquent à leurs oreilles. Alors il serre ses mains dans les siennes et dit « Il faut partir ».
Le correcteur, personne ne le voit. Le correcteur n'est pas indépendant, il touche un salaire. Le correcteur est payé en fonction de son volume de travail. Le travail du correcteur se mesure au nombre de signes qu'il lit. Le correcteur n'est pas un salarié. Le correcteur n'a pas de congé payé. Lorsqu'il ne lit pas, le correcteur n'est pas payé. Lorsqu'il ne lit pas, le correcteur ne vit pas. Le correcteur ne travaille pas pour une seule maison. Le correcteur passe d'une maison à l'autre. Mais le correcteur n'est d'aucune maison. Le correcteur n'a pas de poste, pas de place, pas de bureau, dans aucune maison. Le correcteur travaille chez lui, ou bien il travaille dans une bibliothèque, ou bien il travaille chez sa mère s'il doit prendre soin de sa mère, ou bien il travaille chez quelqu'un d'autre, ou bien il travaille dans un hôtel, ou bien il travaille dans un café s'il veut boire quelque chose et entendre des gens parler autour de lui. Ou bien il travaille dans un jardin public pour peu qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas un souffle de vent. Le correcteur n'a pas d'horaire. Le correcteur peut travailler le matin, il peut travailler l'après-midi, il peut travailler le soir ou travailler la nuit ou travailler à l'aube. Le correcteur n'a pas d'horaire, mais il a des délais. Il arrive que pour respecter les délais, le correcteur travaille continuellement le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, l'aube. Le correcteur est pris dans une chaîne. La chaîne dans laquelle le correcteur est pris est la chaîne du livre. De tous les maillons de la chaîne qui concourent à la fabrication du livre, le correcteur est le plus invisible. L'auteur, le traducteur, le directeur de collection, l'éditeur, l'imprimeur, le maquettiste, l'iconographe, tous signent le livre, mais pas le correcteur. À tous est assignée une place dans le livre, sur la couverture, parmi les premières ou les dernières pages, mais pas au correcteur. Il n'y a pas de place dans un livre pour le nom du correcteur. Il n'y a pas de place dans un livre pour le correcteur. Le correcteur est le maillon caché de la chaîne du livre. Il est extrêmement rare, par exemple, que l'auteur ou le traducteur rencontre le correcteur. Il est extrêmement rare, même, que le correcteur rencontre un autre correcteur. Pour l'auteur ou le traducteur, comme pour ses semblables, le correcteur le plus souvent n'a pas de contour, pas de visage, pas de corps. Pour le correcteur, la norme est l'invisibilité. Tout le travail du correcteur est de disparaître ou de faire disparaître. Le correcteur est un regard. Ce que le correcteur cherche à voir, c'est ce qui ne doit pas se voir. Une coquille, une erreur, une faute. Ce que le correcteur voit, il ne le montre pas. Il l'efface au contraire. Le correcteur n'est pas une machine. Les correcteurs automatiques ne savent pas corriger. Les correcteurs automatiques rectifient. Le correcteur ne rectifie pas la langue. Parfois, il la casse, la langue, le correcteur. Le correcteur rectifie ce qui doit être rectifié, il casse ce qui doit être cassé. Le lecteur ne remarque jamais le travail du correcteur. Le lecteur ne remarque pas l'absence de faute dans un texte. Et s'il arrive au lecteur de remarquer une chose dans un texte, c'est plutôt, parfois, l'absence de correcteur. Le correcteur ne se signale au lecteur que lorsqu'il n'a pas été là. Si le correcteur a su danser avec le texte de l'auteur, s'il a glissé le rabot de sa lecture dans l'épaisseur des phrases, plus personne ne garde le souvenir de son passage dans la langue. Le correcteur est moins qu'un mot dans la langue. Le correcteur est moins qu'une respiration dans la langue. Le correcteur est une voyelle inaudible dans la langue. Le correcteur est une voyelle muette. Le correcteur est un jva.
Jomette est à demi allongée sur un sofa, en sari blanc, sans doute trop théâtral, mais en parfaite harmonie, reconnaît-il, avec la musique, aussi étonnante et aussi belle. Elle dit qu'elle travaille sur un poème de Tagore, qu'elle est en train de faire le mixage sur son ordinateur. Elle mêle un baryton qui récite le poème en français, une soprano qui chante la version originale en bengali et quelques instruments dont les timbres sont retravaillés par le logiciel. Elle n'a pas fini les instruments, justement, encore trop franchement occidentaux malgré deux tempuras. Tempura, des cordes indiennes. La musique étrange se déploie. Elle ne ressemble à rien qu'ils connaissent, rien d'explicable. D'où vient l'imagination sonore qui s'entend ici? Il retrouve le poème. Lorsqu'un coup invisible faucha les chevaux de rêve qui enlaçaient ma vie. Et derrière, les volutes de la voix bengali qui s'éloignent, se rapprochent, puis s'éloignent encore de la psalmodie du récitant, s'y enroulent, puis vont ailleurs tisser leur entrelac, tandis qu'ils croient entendre la musique du vent, souffle intermittent dans un tuyau, percussion cristalline rythmée par un son profond de cloche à ciel ouvert, pense-t-il, et d'autres instruments encore, mais qu'il n'identifie pas tous parce qu'il est sous le charme, jusqu'à ce que la tresse s'interrompe. Il ne reste à présent que les deux voix humaines a cappella. Enfin, la musique, soudain absente, creuse un tel vide dans sa poitrine qu'il dit « Il faudrait finir ainsi, car c'est ainsi que nous finissons, comme dans la dernière pièce de l'art de la fugue, dont l'inachèvement me paraît très exactement à l'image de ma mort. Cinq voix, puis quatre, puis deux, puis le suspens brutal. » Il se tait, confus de s'être montré si grave. Jomette dit « Je crois que l'auditeur, si peu formé soit-il, techniquement parlant, a un sentiment de la structure. Il ne saisit pas le lien étroit de la première mesure à la vingtième, les innombrables formes de correspondance entre les éléments musicaux, mais je suis convaincue qu'il sent l'ampleur de la structure, la plénitude de sa forme générale. On n'écoute pas l'oreille collée à l'instant, on écoute à distance aussi. Jeanne dit « Nous mangeons maintenant ». Et Jomette se lève pour apporter des plats. Il est un peu scotché. Elle est beaucoup, beaucoup mieux que la dernière fois. Bien moins ridicule. Quand elle parle de sa musique, elle devient même étonnante. Et surtout, elle s'oublie. Et ainsi, elle y gagne, même sur les terrains qu'elle abandonne. Justement, elle s'érotise en oubliant sa féminité. Oui, car l'intelligence est érotique, c'est ce que disait Zélie, et elle avait raison. Dans la voiture, pensée divagante, il se dit qu'il faudrait arriver au bout de la vie avec le sentiment d'une conclusion atteinte et non d'une interruption, achever son existence dans l'exténuation des désirs et ainsi mourir dans la sagesse et non dans l'effroi, paisiblement.
Face à la vieille église trônait le Café Rouge. Tout le monde savait de quel établissement on parlait quand on disait le Café Rouge, qui devait son nom d'usage à la couleur inhabituelle de son plafond. Opaque, terni par les respirations et les bouffées de fumée de la clientèle, un ciel rouge y veillait en effet sur les hommes assis, sûrs de cet endroit chaleureux et familier. Ceux-ci y buvaient et y riaient, tandis qu'en face, leurs femmes priaient et pleuraient. Elles pleuraient d'autant plus ce dimanche que l'on célébrait la messe d'enterrement du prêtre de la paroisse. L'église était saturée de monde, les places assises s'étaient arrachées très tôt le matin, et vu du café, un étonnant spectacle s'annonçait. Ce n'était cependant pas pour cette raison que Finn Prescott s'y était installé. Il était venu par habitude, sans nécessité, sans désir, plutôt pour sortir un jour de repos, prendre l'air et voir du monde. Ce café était le seul endroit de la ville où il se sentit chez lui. Pour être exact, c'était quasiment le seul lieu public où il mettait les pieds. Beaucoup plus souvent et beaucoup plus régulièrement qu'il ne se l'avouait lui-même. Le serveur vint vers lui et lui demanda pour la forme ce qu'il désirait boire. Finn commanda un grog d'une voix un peu haut perchée, comme si cette idée venait de lui traverser l'esprit. Il ne voulait pas non plus formuler que c'était la seule chose qu'il eût jamais consommée, chaque dimanche matin, à cette même place. C'était la table à laquelle il s'installait quand il venait ici. Jamais il ne s'était assis à un autre endroit depuis qu'il avait franchi la porte du café pour la première fois. En aspirant du bout des lèvres son grog brûlant, il observa les portes de la vieille église s'ouvrir lentement et assista au lâcher de fidèles qui s'ensuivit. Il connaissait presque tous ces visages, aux yeux gonflés et rougis. Mais même dissimulé en ce jour sous des lourdeurs noires et des superpositions de tissus endeuillés, il connaissait aussi leur corps. Il les avait auscultés, des pieds à la tête, ces gens qui resserraient leurs manteaux contre leur poitrine au sortir de la messe. L'image des peaux blanches et ternes sous le néon du cabinet fit monter en lui une vague de dégoût. Il les y recevait un par un, séparait chaque rendez-vous d'une minute pour ranger la fiche du patient qui venait de se rhabiller, sortir celle du suivant et se remettre en tête son profil médical. Mais aujourd'hui, ils étaient tous réunis face à lui. Pour la première fois, il ne vit plus qu'une masse de corps sans identité. Il frotta ses yeux qui le piquaient encore, puis les rouvrit en plein soleil. Un visage flottait entre tous les autres. Il n'avait jamais vu cet homme en consultation. Thomas. Seul le prénom d'abord vint à lui. Puis le reste se déploya lentement. Ses années d'études à la fac de médecine de la ville, leur rencontre dès la deuxième semaine de cours, le moment où ils s'étaient rendus compte qu'ils venaient de la même région, leurs promesses, oui, à l'époque ils avaient parlé de promesses, de rester solidaires dans l'arène tourbillonnante des études. Et après le diplôme, Finn était revenu vivre auprès de ses parents et Thomas était resté à la ville. Lorsque ce dernier, longeant le trottoir, arriva à la hauteur du café, Finn frappa au carreau pour attirer son attention. À vrai dire, Thomas Dagson avait été son confident pendant plusieurs années avec une irréprochable constance. Finn essayait de gagner du temps, et à mesure qu'il tentait de se composer un visage quelconque, cette absurdité l'assaillait. S'ils avaient été si proches, comment pouvaient-ils s'être à ce point perdus? Il craignait maintenant de se retrouver face à lui. Une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps devient un inconnu, pensa-t-il à toute vitesse. Et il s'accrocha à cette certitude pour se rassurer et envisager cet entretien imminent comme un rapport social des plus quotidiens. Et quand on appartient à la vie antérieure de quelqu'un, poursuivait-il, on devient soi-même un inconnu pour lui. Alors rien ne peut être plus intime que l'intime d'avant. Il se dit qu'il allait refermer les vannes immédiatement avant que quoi que ce soit ne jaillisse du passé. Il eut devant les yeux l'image d'une digue de barrage dont le béton armé se fendillait peu à peu, et Thomas entra. Il laissa la porte claquer derrière lui, tout à sa hâte de serrer les deux mains celle de Fine qu'il n'eut pas le temps de se lever.
Jeudi. Léna. Michael Jackson venait de mourir et ça ne faisait rien. Derrière la fenêtre, à petits carreaux entrouverts, le cèdre bleu effleurait le toit, les fils électriques. Il faudrait les laguer. Il y avait tant de choses à faire, toujours, des choses ordinaires. Assise sur son lit, Léna tenait un body d'une main, une robe à pois de l'autre. Autour d'elle, des piles plus ou moins droites de vêtements, 4 exactement. Une pour Zoé, une pour Théo, une pour Vincent. Et une pour elle, évidemment. Il ne fallait pas qu'elle s'oublie. Cela ne risquait pas avec les pensées qui l'assaillaient. Des mauvaises pensées, s'il n'y avait eu que ça. Ces derniers mois, elle avait des bouffées, des pulsions, des crises, elle ne savait comment les nommer. Puis elle avait envie de pleurer, souvent même elle pleurait, et de sauter par la fenêtre. Pourtant, elle n'était pas malheureuse, n'avait aucune raison de l'être. Léna consulta sa liste, elle tenait ça de Marianne. Comment sa mère s'en était-elle sortie? Ils étaient 3 à la maison, plus Achille l'été, les cousins, les cousines, les copains, les copines qu'elle prenait en vacances. Avec seulement 2 enfants, Léna avait l'impression de se noyer dans un verre d'eau. Elle sombrait et personne ne s'en rendait compte. Elle devait courir après le petit, braver le danger à chaque seconde, comme s'il cherchait à user ses nerfs et prouver sa terreur. Elle ne le quittait pas des yeux, et avec sa fille, c'était pareil. Vincent l'appela. Elle se sentit prise en faute. Les bagages étaient-ils prêts? Il préférait rouler de nuit. C'était plus pratique avec les enfants. Elle lui répondit « Oui, presque », d'une voix faussement enjouée. Un jour ou l'autre, un malheur arriverait. Il ne faudrait pas s'étonner. Quelquefois, elle s'imaginait lâcher son dernier-né dans l'escalier, le laisser se noyer dans son bain. Marianne, elle, ne râlait jamais. Jamais elle n'avait ne serait-ce que soupiré. Léna s'entendait parfois crier, et après elle se griffait les bras. Elle les aimait tellement. « Vous me tuez, mes amours, à petit feu », chuchotait-elle. Son mari voyait quelqu'un, elle en était convaincue. Dans un sens, ça l'arrangeait. Elle avait installé un futon à côté du lit à barreaux de Théo. Son corps éprouvé requérait du repos, ses plaies devaient cicatriser. Elle se nichait surtout dans sa tête, elle en avait conscience. Elle avait été soulagée d'avoir un fils. Contrairement à Vincent, elle ne voulait pas de 3e enfant. On ne fait pas un élevage, l'avait-elle prévenue. Elle songeait à prendre rendez-vous, afin que sa décision soit irréversible. Mais elle était velléitaire, et pour l'instant, elle n'avait rien fait. Ni pour le cèdre, ni pour le reste. Il allait lui falloir déplacer des montagnes pour gagner la mer. Elle testerait le point où sa résistance céderait, où ses nerfs menaceraient de lâcher comme des élastiques trop usés. Mais son père était âgé, elle devait prendre soin de lui. 10 minutes plus tard, le ciel virait au rose. La tempête était passée, elle pouvait se remettre au travail.
Le Londres Luxor est un ancien cinéma parisien, souvent confondu avec le Luxor. Ce dernier, situé boulevard de Rochechouart, est désaffecté depuis 1987. Mais du métro aérien qui le frôle, pour ainsi dire, certaines personnes, à certaines heures, prétendent y avoir vu de la lumière. D'aucuns affirment avoir entendu des pas résonner bien après la fermeture. D'autres maintiennent cependant, avec fermeté, qu'il ne s'agissait que de rire. Le Londres Luxor, construit en 1920, ne s'appelait initialement que le Londres. Il était néanmoins aussi néo-égyptien qu'aujourd'hui, et on y a adjoint Luxor plus tard, sans doute par association d'idées. Sphinx en pierre, bas-relief. Certains historiens prétendent y voir une référence au musée de la momie de Luxor, ce qui est une grossière erreur chronologique. Le musée ne date que de 1981. Il n'est pas question ici du fameux atelier de momification de Luxor, dont la renommée nous vient du fond des âges. Si son existence reste à avérer, sa réputation n'est plus à faire. Le nom du Londres Luxor, tiret compris, apparaît à 2 reprises dans la presse, en 1949, puis en 1951. En 1994, le Londres Luxor devient un point de ralliement pour la diaspora yougoslave. On n'y projette plus de films, uniquement des informations en continu. À partir d'une certaine heure, l'écran reste blanc, tandis que, sur Radio France Internationale, les survivants parlent aux survivants. Le cinéma fait faillite, la lumière n'y est jamais éteinte. Il rouvre en 1998, bien que l'écran et les projecteurs aient été préservés, de même que les bas-reliefs, sphinx et papyrus, le Londres Luxor est devenu un club. Orchestre et mezzanine ont chacun leur bar. On peut circuler de balcon en balcon, verre à la main. Les salles de projection privées accueillent des cercles d'intellectuels de plus en plus restreints et des hommes d'affaires en quête d'intimité. La jeune fille qui venait d'entrer au Londres Luxor avait commis deux erreurs. Elle venait dans la journée. Elle s'était teinte en blonde. C'était la première fois qu'elle changeait de couleur, l'expérience n'était pas concluante. La veille, elle était passée à la télévision, ce qui l'avait terrifiée. À l'écran, la couleur, pourtant de qualité et neuve, tenait surtout de l'effacement. Elle avait le teint pour, et ses yeux, bien que sombres, étaient verts et auraient pu être clairs. Toutefois, ce blond, qui ayant coûté une fortune, paraissait naturel, presque blanc, n'avait rien de séduisant, sensuel, sexy, mais semblait simplement abstrait. Elle-même avait l'air absente, comme si elle avait la tête ailleurs. C'était peut-être dû à la teinture, ou bien à l'éclipse de sa sœur aînée, dont il était possible de dire, sans trop d'exagération, qu'elle était sa seule famille. Son meilleur ami lui avait respiré le cuir chevelu, émerveillé et perplexe de ce miracle de la chimie. Lui aussi trouvait ses cheveux absents et abstraits, quoique jolis. Il craignait que, par capillarité, absence et abstraction ne passent dans le système sanguin, n'innervent tout l'organisme, et que son amie ne finisse encore plus absente et abstraite qu'elle ne l'était déjà. Même dans son état normal, bêtement châtain, c'était des mots qui venaient à l'esprit à son propos, ce qui, à bien y penser, est assez inquiétant.
Madame Oates avait pris la parole la première, après que j'eus indiqué par la mimique appropriée que ma lecture était terminée. Ses bracelets avaient cascadé interminablement le long des avant-bras prodigieux quand elle s'était levée et tournée de trois quarts vers le reste de l'assistance. D'abord, on lit des histoires inventées par d'autres, avait-elle commencé, d'une voix qui montrait son habitude de parler en public. Et l'on découvre, le temps de cette heure magique, l'excitation de devenir un autre, plusieurs autres. Puis l'on veut écrire ses propres histoires en imitant celles qu'on a lues. Et l'on apprend comment devenir autre. Et l'on découvre qu'il n'existe aucune limite que la fiction ne permette de franchir. Alors on s'engage dans des expériences de dépersonnalisation plus longues et risquées. Changer d'époque, d'espace, de sexe, d'espèce. Et bientôt, nous n'acceptons plus de réintégrer notre moi social qu'en de plus en plus rares occasions. Sa main s'était posée sur le bras de Ballard comme pour vérifier qu'il était bien là. Ensuite, continua-t-elle, si l'on a de la chance, si la fiction veut bien de nous, mais tout portrait, toute biographie, chacun le sait, est déjà une fiction, on devient soi-même personnage dans des histoires conçues par d'autres qui imitent et répètent à leur tour celles que nous avions écrites. Et ceux qui liront ces histoires, le temps d'une nouvelle heure magique, deviendront ce en quoi la volonté, le désir ou la malveillance d'autrui nous aura transformés. À la fin, nous serons entièrement passés du côté du langage, créés, agis et visités librement par qui le veut. La prolifération des auteurs et personnages d'auteurs est-elle une fatalité? Ne représente-t-elle pas un danger? Avais-je cru nécessaire de la couper. Geste de la main m'invitant à développer. Bruit de bracelet. Si tous les lecteurs de romans tentent à devenir des auteurs de romans et que tous les personnages dans les romans tentent à devenir des personnages d'auteurs de romans, n'y a-t-il pas le risque à la longue que tous les romans finissent par se ressembler en reproduisant à l'identique le même bariolage de tissu écossais? J'ignorais comment cette dernière image avait pu me venir à l'esprit. C'est ce qui arrive quand un caméléon usurpe l'identité d'un autre caméléon et ce qui explique en effet pourquoi nous sommes condamnés à vivre et écrire toujours la même histoire. Simplement, je crois que nous la répétons, cette histoire, au fil du temps, à des degrés de moins en moins personnels. Tel que vous me voyez, il n'existe plus en moi qu'un faible pourcentage de, comment dites-vous, Joyce Carol Oates. Un nom. C'est tout ce qui reste, et tout ce dont nous avons besoin pour désigner les formes voyageuses que nous empruntons, destinées à se vider et se remplir, non plus d'air, mais de mots. Le nom que nous sommes et auquel nous donnons forme, Jorge Luis Borges, James Graham Ballard, Joyce Carol Oates, sujet, verbe, complément, les phrases que nous devenons.
J'ai toujours cru tant de choses. Je ne demandais que ça. J'ai cru en Dieu, j'ai cru à l'existence éternelle de l'âme, j'ai cru à l'amour absolu. J'ai cru que l'on pouvait partager chaque battement de cils. J'ai cru que si chaque battement de cils pouvait être partagé, alors la question du sens serait résolue. J'ai cru à la bonté des hommes. Quand cette foi était mise à mal, je continuais de croire qu'au fond de chacun, il y avait une tendresse éperdue qui ne demandait qu'à s'ouvrir et se répandre sans fin. J'ai cru que la politique pouvait changer le monde. J'ai cru que la célébrité était une forme d'immortalité, avant qu'elle ne commence à m'apparaître comme une manière de se débattre en public contre la mort. Un spectacle aussi saisissant qu'une crise d'épilepsie, mais beaucoup plus embarrassant. J'ai cru qu'il fallait sauver la planète. Puis j'ai cru que si l'activité humaine devait détruire la planète, alors ce serait l'histoire de cette planète, rien de plus. J'ai cru qu'il n'y avait pas de temps à perdre. J'ai ensuite cru que la vie était un quartier libre et que le concept de gâchis était infondé. J'ai cru que les canards étaient plus sages que nous. J'ai longtemps cru que je n'avais besoin de personne. Je croyais également que je n'avais pas ma place parmi les humains. Puis j'ai cru que sans les autres, je ne tiendrais pas debout. Ça, c'était quand j'ai commencé à croire que je faisais partie d'un tout, avec les tigres, les rognures de scotch, les pommes de pin et le reste, et que la beauté de ce tout, dans lequel j'avais le bonheur de m'inscrire, finirait par me tuer tant je manquais de bras et ma perception de portée pour l'embrasser dans son entier. J'avais cru que si je mettais en liste tout ce qui m'importait, je pourrais me découper un monde à mes dimensions dans la profusion du vaste univers, et en prime rendre impérissable mon petit enclos. Puis j'ai cru que ces listes risquaient de m'enfermer dans des définitions de moi et je les ai laissées tomber. J'ai cru que la lumière suffisait à remplir une vie. J'ai cru que la musique pouvait amener à un stade de conscience supérieur. J'ai cru que 6,5 milliards de volontés pouvaient conjurer la mort. Jusqu'au bout, j'ai cru qu'il y avait quelque chose à faire pour contourner la mort et j'ai cru qu'il suffisait pour cela de trouver une formule collective. J'ai vraiment cru que si les gens se rassemblaient, rien n'était impossible. Rien.
Anna avait repéré une exposition dédiée à Jean Tinguely, organisée dans un palais proche des bassins de l'Arsenal. Après avoir gravi les marches d'un palais des Cati, nous débouchâmes sur une enfilade de grandes salles hautes de plafond où avaient été dressés soit de complexes mécanismes grinçants dont toute l'énergie déployée n'aboutissait la plupart du temps qu'à actionner un dérisoire petit hochet emplumé ou une poupée articulée saluant la foule avec une raideur sinistre, soit des parodies d'engins automobiles dont la mécanique burlesque, desquels apparaissaient souvent de façon incongrue un ou deux crânes d'animaux. On croyait deviner que résidait là une profonde ambiguïté, probablement inconsciente de la part de l'artiste, vis-à-vis de la mécanique, comme s'il avait voulu exprimer que ces minutieux engins qui nous libéraient de la servitude musculaire représentaient simultanément un abandon tragique de la partie animale et plus sensuellement terrestre de nous-mêmes. Ce qui était cependant le plus troublant était l'attitude des quelques visiteurs présents. Loin de sourire à la dimension comique affichée par ces machines, ils les considéraient avec un respect sacré tout en chuchotant comme dans une église. On sentait en sus du respect désormais acquis de la bourgeoisie pour la moindre œuvre artistique une incrédulité flottée dans l'air. Quelle pouvait bien être la signification de tout ceci, semblait-il se demander. Percevait-il avec un certain malaise qu'au-delà de la drôlerie de l'ensemble, gisait là une gaieté plus sombre, presque démoniaque, qui s'apparentait au désespoir ? Toutes ces machines fonctionnaient certes merveilleusement bien, mais elles ne produisaient rien, et c'était à nous de déchiffrer leurs messages sombres et ambigus. Or, compte tenu de l'endroit et de l'heure, je pris soudain conscience du sens probable que recelait ici une telle démonstration. Cette dérision ricanante de l'univers mécanique prenait place au cœur de la cité emblématique du déclin de l'Occident, la cité mélancolique par excellence, où les nostalgiques et les réfractaires au monde d'aujourd'hui avaient envie de se réfugier, loin de ce que Gombrowicz avait précisément nommé la monotonie foudroyante des moteurs, lesquels ne cessaient de nous annihiler moralement dans le reste du monde et contribuaient en outre, par le biais de ceux qui étaient tolérés ici dans la lagune, pour propulser les hors-bords par exemple, non seulement à l'engloutissement de Venise elle-même, mais encore d'où tous ces curés présentaient un mode de vie plus calme et plus méditatif. Anna s'exclama. « Incroyable, non ? Quoi donc ? Ce Tingoli a matérialisé notre confusion désespérée. Ce devait être un homme fort tourmenté. » Apparemment, oui. Il avait sans doute du mal à se repérer parmi toutes ces contradictions intimes, comme nous tous. Son génie artistique a consisté à les mettre magistralement en scène. Mais la question demeure entière de savoir si lui-même les a assumés ou bien subis dans l'angoisse. Les artistes de cette époque furent souvent écartelés entre leur plaisir de reproduire le monde traditionnel qui avait été celui de leur enfance et le désir de rupture moderniste à tout prix qui prévalait parmi les intellectuels révolutionnaires d'alors et dont ils n'avaient généralement pas le courage de se défier. Ah oui, tu dois avoir raison. D'ailleurs, je viens de lire sur une monographie en vente à l'entrée que Nikita Saint-Phal, son épouse, avait dit sur le tard. Sans doute faut-il toujours écouter attentivement ce qu'ont à dire les vieilles mondaines. Il existe dans le cœur humain un désir de tout détruire. Détruire, c'est affirmer qu'on existe, envers et contre tout. Elle a dit ça ? Ça n'est pas trop étonnant, au fond. Elle devait avoir fini par ressentir cela malgré tout. Il me semble d'ailleurs que la plupart des artistes de l'époque auraient pu dire la même chose s'ils avaient été assez lucides. Qui ça, par exemple ? Eh bien, Duchamp, les dadaïstes, les surréalistes, les cubistes, les futuristes, les fauves, les expressionnistes et tous ceux qui allaient s'engouffrer dans la brèche des multiples avant-gardismes, tous ceux qui avaient décidé de rompre définitivement avec le passé, tous ceux qui croyaient dur comme fer qu'en tant que derniers venus, ils étaient automatiquement les meilleurs, les élus de Dieu ou des instances muséales, que sais-je ? Muséales ? Oui, muséales, pourquoi pas ? Anna sourit et me demanda alors. Et nous, qui ne nous sentons aucunement guidés par ces belles entités révolutionnaires, que nous reste-t-il à faire ? Seulement à constater les dégâts et à devenir les archivistes amers de la destruction inconséquente opérée par les générations d'artistes frivoles qui nous ont précédés. Tu penses vraiment ça ? Tu ne crois pas en un quelconque renouvellement ? Hélas, non. Mais sincèrement, Anna, je préférerais me tromper. En outre, il y a toutes les chances pour que je me trompe, comme tous ceux qui ont cru être en mesure d'évaluer les choses qui les dépassent. Mais s'il faut en revenir à ma perception limitée, et puisque tu me le demandes, dans mon état d'esprit actuel, je ne vois qu'une seule issue honorable. Conserver ce qui peut encore l'être, tenter de le préserver jalousement de l'esprit destructeur qui grève notre époque de l'intérieur. D'ailleurs, un poète a dit ceci, « Nous autres, nous ne vivons plus que des restes. »
Hier, j'ai pris un café avec Richard après le cours. Je suis très amoureuse de lui, il est merveilleux. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je ne peux pas imaginer que je cesserai de l'aimer un jour. Il avait suffi que j'écrive ces mots pour qu'ils deviennent mensongers. Lydia tenait un journal et je me demandais tellement ce qu'elle pouvait y mettre que j'avais envie d'essayer moi-même. Je pensais qu'ainsi, j'allais enfin savoir ce que je pensais. J'ai arraché la page et j'ai recommencé. Aujourd'hui, j'ai pris un café avec Richard après le cours. Je ne sais pas si je l'aime, étant donné que personne ne m'a jamais autant séduite. Je suis peut-être incapable d'aimer. Je me sens supérieure à lui. Il m'est assez facile d'imaginer que je pourrais cesser de l'aimer un jour. Là, j'étais assez proche de la vérité, mais il en manquait une partie. J'ai pensé que le mensonge n'était pas forcément le contraire de la vérité. Un après-midi, un peu plus d'un an auparavant, ayant cru remarquer que je plaisais à Richard, j'avais fait semblant de m'évanouir au début du cours. Je venais de sortir mon violoncelle de son étui, je l'avais posé, j'avais vacillé et j'étais tombée de tout mon long, comme j'avais appris à le faire au cours de théâtre quand j'avais 10 ans. « Ça marche », avais-je pensé, les paupières closes, tandis que Richard me soulevait à demi avec des gestes inquiets. La semaine suivante, nous nous embrassions pour la première fois dans sa voiture, timidement, et tout en me caressant les cheveux, il me disait s'être inquiété à cause de cet évanouissement. Je m'étais dit, tout est gâché. Tu as commencé cette histoire avec un mensonge, elle ne vaut rien. Cela m'avait aussi fait croire que je pouvais manipuler Richard, et je l'en aimais déjà nettement moins. Quelques mois plus tard, Il m'accompagnait à Paris au premier tour du concours d'entrée au conservatoire, que je devais d'ailleurs rater. Nous étions assis côte à côte dans le train. Ma main était sur son poignet. J'étais tout entière absorbée dans la sensation de son poignet sous mes doigts. Il n'y avait de place pour rien d'autre. C'était le monde que j'avais sous mes doigts. Il m'était offert. J'étais éperdue de reconnaissance. Je n'avais jamais éprouvé de bonheur plus intense. Je risquais de ne jamais en connaître de plus grand dans ma vie. Peu avant que Richard décide de me quitter, j'ai commencé à penser. C'est moi qui fais tout dans cette histoire d'amour. Les vitres et les sols, les moments de calme et de passion, les hauts et les bas, tandis que lui reste posé sur l'eau, placide, comme un petit flotteur. Ce qui était normal d'ailleurs, puisque je ne le mettais pas au courant de nos disputes et de nos réconciliations, des hautes et basses pressions qui se succédaient dans mon cœur. Je ne pouvais pas dire à Richard que souvent, pour ressentir un amour plus sincère, j'imaginais que je rencontrais quelqu'un d'autre et que j'aimais deux hommes à la fois, parce que ma culpabilité me le rendait tout à coup plus précieux. Je ne pouvais pas non plus lui dire que s'il prenait mon visage doucement entre ses mains, j'avais l'impression que tout mon être était en verre, un verre si fin qu'il allait se fendre de tous les côtés à la fois et tomber en minuscules débris qui ne feraient même pas de bruit. Que j'allais mourir, incapable de supporter cette douceur, et que je lui en voulais de pouvoir m'atteindre si profondément d'un simple geste.
Lasse et accablée, je m'abandonne sur la sole moite de ma cellule et je pense encore à ces gens-là qui envahissaient les mers comme des méduses mal aimées et se jetaient sur les rives étrangères. On les recevait dans des bureaux semi-opaques, semi-transparents, dans les zones périphériques de la ville. J'étais chargée, comme beaucoup d'autres, de traduire leurs récits d'une langue à l'autre, de la langue du requérant à la langue d'accueil, récits au goût de larmes, âpres et cruelles, récits divers, de pluie sale et de rue boueuse. L'aube vient à pas boiteux, avec un ciel couleur de lait caillé. Le bourdon entré dépouillé dans la pièce cherche toujours la sortie et se cogne contre la vitre. Je suis au bout de mon théâtre, au bout de la nuit. À la fin de la scène, il faut un miroir. Les murs sont nus et jaunes. Mon sac est encore dans un des tiroirs de M. K. Je cherche désespérément un miroir. C'est ainsi toujours. Mes désirs sont vite désespérés. J'ai besoin de me voir. Le miroir a un effet souvenir. Il retient mes gestes et mes grimaces. Me voir, c'est mon souvenir, ne pas m'oublier. C'est le souvenir simultané. Le souvenir a un effet miroir. Les instants se reflètent, se répètent, les instants difformes, géants ou infimes. Au revers du miroir, il y a du mercure. Lorsqu'on est là, de l'autre côté du miroir, à la source, à la racine des choses et dans les images, on avale alors le poison. Depuis longtemps, je n'étais pas allée aussi loin au fond de moi, près de mes sous-sols, près de mes racines. Au fond de nous, il y a des puits noirs, des oubliettes, des impasses. Au fond de nous, il y a une maison hantée, un pays déserté, une terre entre les langues de la baie, oubliable, oubliée le surlendemain. La vapeur monte d'une vieille cafetière. La buée couvre la vitre. J'ai envie d'y écrire un nom avec mon index. Mais aucun nom ne vient à mon esprit. Ça fait longtemps que je n'ai plus de nom à inscrire sur une vitre embuée. Je vois le ciel caillé. Le blanc tourne dans le blanc, devient violet. Le vent chasse les nuages et le ciel avance en volute de fumée, recule, avance et tourne en rond. Je pense déjà au rythme saccadé du métro, je pense de nouveau au rythme saccadé de cette ville. Sa bouche grande ouverte m'attire de nouveau vers elle. La descente dans son labyrinthe est la seule vie que je connaisse, la seule des morts que je connaisse. Il est temps de rentrer.
Jean Balle,
Un officier en acier, un modèle d'héroïsme. À vos ordres. À vos ordres, mon commandant. Soldat Schumann, à vos ordres. Ils lui ont tronçonné la jambe jusqu'à la fesse. Moi, il m'avait scié sous l'aisselle. On s'est réveillé en même temps. Les premières minutes sont atroces. On est accablé, on a envie de vomir, on a envie de mourir. Heureusement, on se raccroche. Après le premier choc, il y a toujours quelqu'un qui vous parle. Alors, on se raccroche à ce qu'il dit. Vous verrez si ça vous arrive. « Schumann !» a dit le commandant. « Arrête de gueuler, comme si que c'était important d'avoir tous ses membres. L'important, c'est d'en avoir assez encore pour se battre. L'important, c'est les 9 nobles différences entre socialisme et communisme. L'important, c'est les thèses d'avril. Moi, j'étais prostré sur mon matelas dans les odeurs de sang, malade, incapable de bouger, le goût à rien. Vous verrez, vous aussi, ça vous tombera dessus un jour ou l'autre. On a passé un jour comme ça, à gueuler, tantôt l'un, tantôt l'autre, ensuite on s'est calmé. Moi, ma main me démangeait, ma main droite l'a disparu. Des picotements, des brûlures, des élancements. Mon commandant que j'ai demandé, vous sentez quelque chose dans la jambe ? Dans laquelle de jambe ? Qu'est-ce que tu veux savoir, Schumann ? Mon commandant, j'ai dit, mon bras coupé me fait des misères. C'est comme si que j'avais 200 moustiques qui s'étaient posés dessus en même temps pour me pomper le sang. Sur ton bras coupé ? Il a demandé. Je lui ai dit que oui. Les moustiques faisaient que me piquer et je ne pouvais pas les écraser. J'avais plus rien à gratter. Mon bras n'existait plus, il était à la poubelle avec des tampons de coton sale dans le bardeau des viandes. Mon commandant s'est mis à me crier dessus. « Soldat Schumann !» qu'il a crié. « Soldat Schumann, arrête de beugler des âneries. Ton bras est foutu, les moustiques ne le piquent plus, qu'est-ce que tu racontes ?»« L'important, c'est pas d'écraser les moustiques, c'est d'écraser l'ennemi. C'est l'écrasement définitif de l'ennemi. » C'est la construction en accéléré d'une société sans classe. Qu'est-ce qu'on en a à faire de tes picotements sur ton bras fantôme ? Tu crois que je perds mon temps à penser à ma jambe fantôme à l'heure actuelle ? Je me récite les 7 parfaits principes de la dictature révolutionnaire. C'est mieux que de penser aux moustiques. Voilà ce qu'il m'a dit mon commandant, Jean Balbal. Les 7 parfaits principes de la dictature révolutionnaire. Faudra que je vous apprenne ça un de ces jours. Du coup, j'ai jamais su si que son pied le démangeait ou pas. On a récité ensemble les 7 parfaits principes, les 8 grandioses étapes pour arriver à une société sans classe. On a récité ça pendant toute la nuit. Ensuite, il a été pris de fièvre et au bout de 48 heures, il est mort. Jean Balbal, il s'appelait. Retenez bien ce nom. Le commandant Jean Balbal, le meilleur d'entre nous.
Pour notre divorce, on a été en Guadeloupe. Le voyage était prévu et notre fille aurait été déçue qu'on annule. À part 2 séjours linguistiques en Angleterre, une semaine au Maroc, un week-end à Amsterdam, je n'avais jamais été nulle part. Ça m'a bien plu. En arrivant, on a fait une partie du trajet entre l'aéroport et l'hôtel au pas, obligé de suivre une cérémonie funéraire. On enterrait quelqu'un dans un village et le quelqu'un et ses amis prenaient toute la place sur la route. Pas grave, on se baignera plus tard. Il y avait une piscine à l'hôtel. Le panneau accroché au niveau du pédiluve demandait au porteur de lésions cutanées une attestation médicale de non-contagion. Il était d'autre part interdit de manger, cracher, sauter, plonger dans le bassin. « Swim at your own risk » était-il calligraphié sur le panneau, signé la direction. Bon, d'accord, la direction, sauf que tout ceci, sauter, cracher, plonger et nager à ses propres risques, n'était pas de toute façon possible. L'accès au bassin était barré. Pourquoi ? Une grève du service des eaux obligeait cette même direction à se servir de la piscine comme d'un réservoir, ce qui expliquait l'odeur de chlore de la douche et l'eau non potable au robinet. Peu importe, il reste la plage. On trouve une jolie anse. Elles sont comme ça, tout un tas à se succéder. Et on peut passer de l'une à l'autre grâce à un petit chemin qui longe la plage par derrière. Notre anse à nous s'appelle l'anse de la Gourde. La Gourde, c'est moi. Je laisse tous nos papiers et tout notre argent dans un sac pendu à un arbre. Les voleurs ont pris le joli petit chemin qui longe par derrière. Chaque fois qu'on se déplace, on enterre quelqu'un. Il y a des processions funéraires partout, des chiens morts aussi, partout, le long des routes. Et pourtant, c'est marqué en gros, danger, interdit de conduire en état d'ivresse. Ah bon ? C'est la Toussaint, des bougies par milliers illuminent les cimetières, en bien meilleur état que les maisons. Les cimetières resplendissent, les habitations sont des taudis. Oh, un taudis, je dis tout le temps. La nuit tombe tôt. À cause du décalage horaire, elle est longue. Je ne dors pas et je reste assise dehors dans le noir avec le bruit des oiseaux de la forêt primaire, pas loin derrière. Mon mari parle bien de la forêt primaire. Dans la forêt primaire, tout se décompose. L'humus est le terreau de la vie. La dernière plage dont je me souvienne est de sable noir au pied du volcan. Il y a des tortues géantes sur cette plage. C'est ici qu'en principe, elles viennent pondre. On ne les verra pas. Elles sont en voie de disparition. La mer aussi est noire, avec juste quelques crêtes blanches qui frisent sur les vagues. Je crois voir mourir Delphine à chaque fois qu'elle se lance dedans. Et puis, le temps passe tellement vite en vacances que c'est déjà le jour du départ. Enfin, c'est ce que je crois. Rigolo, l'équipe à bord est la même qu'à l'aller. Nous vous rappelons que ce vol est non-fumeur. Vivement qu'on ait atterri, je me dis. Il est strictement interdit de fumer aux toilettes, j'irai pas. Nous tenons à votre disposition des substituts de tabac, ok, j'arrive. Par ailleurs, nous vous informons qu'un état d'ébriété est incompatible avec la sécurité à bord. Trop tard, bu deux petits punchs pour fêter notre divorce au bar de l'aéroport. Nous allons enfin procéder à la désinfection obligatoire de la cabine, le produit utilisé étant compatible avec les normes européennes et sans danger pour l'organisme. Sauf pour le mien, le produit se révèle non compatible avec moi. Je suis débarquée de l'avion à cause d'une sévère crise d'asthme et pourtant je suis européenne, comme quoi. Pas grave, je prendrai le suivant.
Je me trouvais à 150 km de Brassac-les-Mines où je savais que vivait Simon et j'ai eu l'idée de passer à proximité, de me rapprocher de Simon, c'était à peine un crochet. Toujours cette idée du sud, donc je pensais à Marseille, à Nice, une ville avec la mer comme limite, parce qu'en même temps je commençais à penser à une limite, je ne me voyais pas rouler indéfiniment. À ce moment-là, je n'envisageais ma mobilité qu'à travers des images de route, je ne pensais même pas à marcher, excepté pour me dégourdir les jambes. C'était peut-être d'ailleurs une solution provisoire, rouler pour marcher un peu, de préférence sur des aires de repos, où l'on croise des gens, me disais-je. J'avais besoin de croiser des gens. Je ne me voyais pas non plus évoluer solitairement au milieu des blés, par exemple, ou en forêt. J'aurais eu l'impression de mourir. Et je me suis demandé si, en partant, je n'avais pas éprouvé tout simplement le besoin de sortir. Ce n'est en tout cas pas ce que j'aurais raconté à Simon si je lui avais rendu visite. Il n'aurait pas compris. Il ne m'aurait même pas cru. Et c'est en partie la raison pour laquelle je ne voulais pas le voir. Les autres raisons étant à chercher du côté des questions qu'il m'aurait évidemment posées et auxquelles je n'avais pas envie de répondre. Néanmoins, je l'ai dit, l'idée de me rapprocher de lui me rassurait. Simon était un ami que je ne voyais plus depuis des années, mais avec qui j'entretenais un lien. Nous parlions toujours de nous rencontrer. Il venait à Paris de temps en temps pour y trouver de vieux livres. Bien sûr, moi je n'étais jamais allé à Brassac-les-Mines depuis que Simon s'y était installé, ni avant. Je ne connaissais d'ailleurs personne qui connût Brassac-les-Mines à part Simon. Il est vrai que je ne connaissais pas grand monde, mais même en connaissant du monde, me disais-je, qu'est-ce qui conduit à s'installer à Brassac-les-Mines, sauf à y retrouver une femme qui elle-même y est née, comme l'avait fait Simon, car il existe des écoles à Brassac-les-Mines où sa femme était née, puis restée comme institutrice, puis comme directrice. Je l'avais vue en photo 15 ans plus tôt. Simon avait beaucoup parlé d'elle au téléphone, puis moi. Il ne m'en parlait plus du tout, en fait. J'ignorais même s'ils étaient encore ensemble. La seule certitude que j'avais, c'était que Simon habitait toujours à Brassac-les-Mines, où il avait une petite entreprise de pneus, ou de changement de pneus. Il ne m'en parlait plus beaucoup non plus. J'espérais qu'il n'avait pas fait faillite. En tout cas, il était propriétaire de sa maison. De sa maison, il me parlait volontiers, en particulier de sa bibliothèque. Simon, en réalité, eût habité n'importe où ailleurs, qu'il m'eût parlé de sa bibliothèque, de son problème de bibliothèque. Car il avait un problème de classement, doublé d'un problème d'insertion. Je l'écoutais avec indulgence parce qu'ayant le même problème, je m'en fichais un peu, je ne lisais plus tellement, Je peinais depuis 6 mois sur une histoire des États-Unis que je reprenais sans cesse au début. Je ne parvenais pas à me faire une idée précise, suffisamment imagée, de la naissance de la Virginie. Si je n'avais éprouvé que ça comme difficulté au demeurant, je ne serais pas parti. Je n'avais d'ailleurs pas emporté de livre, à part l'île mystérieuse que je relisais régulièrement. Quoi que ce soit, au vrai, je n'eusse aucune envie de l'ouvrir. J'avais envie de me coucher et de dormir, d'être au lendemain à reprendre la route.
Si on commence par le début des débuts, Paloma n'était qu'une minuscule créature vagissante et rougeaude dans les bras de sa mère. Des photos en attestent. On lui disait « C'est toi sur cette photo ». Et elle pensait « Bon, s'il l'affirme ». Mais elle ne pouvait s'empêcher d'avoir des doutes. C'était si surprenant que cette petite chose fût elle. En revanche, elle reconnaissait bien sa mère, Vida, sur les photos. Ses cheveux longs et blonds et lisses et son sourire de madone ou de médaillée d'or. Sa mère était très belle. Mais tout un chacun ne trouve-t-il pas incommensurablement belle sa mère sur les clichés qui datent de l'âge de pierre ? N'importe qui exhibe des portraits de sa mère et prend à témoin le reste du monde en déclarant « C'est ma mère, elle était très belle. » Puis ce n'importe qui vous scrute pour s'assurer que vous n'allez pas oser faire la moindre remarque désobligeante, mais Dieu sait que vous n'oseriez pas, puisqu'il vient de se transformer en tigre prêt à bondir et à vous écharper. Alors vous pourriez lever un sourcil, très modérément dubitatif, mais même cela, vous vous en abstenez. Vous sentez qu'il s'agit d'un sujet délicat, la beauté révolue de nos mères. Tout ce que vous voyez sur cette photo, c'est une femme habillée avec des vêtements orange en terre gale ou une quelconque matière inflammable. Et cette femme habillée en orange est une femme normale de 20 ou 30 ans, et il est vrai qu'elle est beaucoup plus belle que celle qu'elle est devenue, alors c'est peut-être cela que chacun essaie de dire sans dire « Regarde comme ma mère était mieux avant ». En tout cas, Vida, sur les photos, portait sa chevelure blonde et lisse en bandeau. Elle regardait l'objectif de Gustavo de ses yeux presque transparents. Paloma était dans ses bras, et elles étaient dans la cuisine de leur maison, dans l'herbe, sur la plage, chez des amis. Et Paloma ne la quittait pas du regard. Elle avait l'air fascinée par son visage, encordée à ce visage, à ses sourcils si clairs, si peu irigoyens, et à l'intense délicatesse de ses traits, toute chose qui avait en leur temps tourné la tête de Gustavo et qui apparemment captivait la minuscule personne que Paloma était. Paloma est devenue par la suite une créature maigrelette, que l'on voit sur certaines de ses photos en train de lire des livres à l'envers ou de marcher sur le sable, les bras à l'horizontale et les jambes écartées, sans doute pour garder un équilibre encore précaire. Mais la chose lui confère une démarche de mort-vivant, de zombie tout droit sorti de sa tombe pour aller terrifier les habitants d'une ville tranquille et sans histoire. Il y a très peu de clichés de Paloma avec son père. Il n'avait certainement pas envie de mettre son appareil rapporté d'Allemagne entre les mains de n'importe qui. Ou alors, Vida, comme d'habitude, reine de l'autodénigrement, avait écrété que non, elle ne saurait jamais se servir d'un appareil aussi sophistiqué. Souvenez-vous de la complexité des polaroïdes. Clic, j'appuie, clac, ça sort. Les quelques photos où l'on voit Gustavo ne sont pas sans intérêt. Il a un visage de beau gosse international. C'est une expression de sa fille. On devine qu'il fait partie de ces hommes qui font cliqueter leurs clés ou leur monnaie dans leur poche de pantalon. Il porte des polos blancs de tennisman avec brodé sur la poitrine le nom d'université américaine que personne ne connaît à Villanueva et que personne d'ailleurs n'arriverait à prononcer. Paloma a passé sa prime enfance à le trouver très beau, à affirmer à ses copines qu'il aurait dû être acteur de cinéma, mais que les aléas de la vie avaient fait que, et à le suivre, comme un chiot, en espérant qu'elle aussi, il finirait bien par l'épouser comme maman.
Vous vous mettez en quatre pour les autres. Vous vous épuisez à la tâche, patiente, dévouée, vous supportez les contraintes sans broncher et vous ne relâchez jamais vos efforts pour contenter tout le monde. Mais cela ne suffit pas, cela ne suffit jamais pour les autres. Intensifiez votre regard d'un trait de crayon à l'intérieur de l'œil, sans broncher. Vous supportez. Vous voyez dans l'œil des autres une tache? Vous. Vous vous voyez dans l'œil de tout le monde? Vous, en 4, en 10, en 100. Vous vous intensifiez à l'intérieur. Vous vous épuisez. Cette générosité trahit un manque de confiance en vous. Vous supportez ce manque, patiente. Vous vous supportez sans broncher. Tapotez légèrement votre visage avec une noisette de fluide hydratant. Vous voyez, vous supportez votre visage. Ne relâchez jamais votre visage. Soyez dévoué. Votre visage supporte les contraintes. Soyez patiente. Tapotez. Tapotez légèrement, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit jamais dans le regard des autres. Vous voyez vos efforts réduits à néant. Votre visage trahi par les autres. Votre intérieur réduit à néant. Vous supportez, vous avez le cœur sur la main. Vous voyez à l'intérieur, votre cœur ne relâche pas ses efforts. Il supporte les contraintes, sans broncher. Vous entendez votre cœur tapoter légèrement. Vous entendez cette générosité, mais cela ne suffit pas. Vous entendez le néant à l'intérieur. Les incertitudes vous paralysent. Vous n'êtes jamais tranquille. Vous n'attendez rien de bon. Bousculé par les événements, ballotté par les circonstances. Vous avez le poids du monde sur les épaules. Vous vous épuisez, vous êtes sur les rotules. Coup de fouet assuré avec une eau énergisante irrésistible. Vous supportez mal le poids du monde. Vos efforts réduits à néant par les événements. Les autres sur vos épaules. Vous ne dites rien. Quand on vous coupe la parole, vous avez peur des dérapages verbaux. Vous avez peur de la parole irrésistible. Vous vous mettez en quatre pour la parole des autres. Patiente, dévouée, vous supportez quand on vous coupe. Vous supportez tout. Votre générosité intensifie les dérapages. Vous vous mettez à quatre pattes. Coup de fouet assuré. Vous sentez la peur. Vous sentez son parfum irrésistible. On vous coupe vos épaules, votre visage, vous intensifiez l'instant, les dérapages vous paralysent. Quelques séances de lampe flash, cela stimule la microcirculation sanguine. Quelques séances irrésistibles, sans broncher, bousculer, balloter, ça vous stimule, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit jamais. Éliminez d'un coup tout ce qui s'entasse à la surface. Cellules mortes, tabac, pollution, tous les résidus qui empêchent la peau de respirer. Vous êtes sur les rotules, le poids des autres sur vos épaules. Vous les entendez, ils parlent dans votre dos, ils parlent en surface, ils parlent avec des résidus de parole. Vous ne dites rien, vous supportez cette pollution qui vous empêche de respirer. Respirez sans broncher, les paroles s'entassent, vos idées ne sont jamais prises en compte, vous êtes à quatre pattes, le dos réduit à néant, personne ne connaît vos désirs et personne ne veut les connaître, vous êtes dans votre cellule, bousculé, ballotté par vos désirs, vous les entendez à l'intérieur, ils parlent à chacune de vos cellules, une pollution irrésistible qui vous réduit à néant, personne ne connaît votre peau dévouée, personne ne connaît votre regard quand on vous empêche de respirer, vous avez toujours l'impression de vivre au-dessus de vos moyens, personne ne connaît le poids de vos désirs sur vos épaules, personne ne connaît vos impressions quand on réduit à néant votre dos. Vous vous mettez à vivre, etc.
Je voulais vous remercier tous pour ce magnifique instant que vous nous avez donné. Pour nous remettre aussi de cette émotion, je vous propose une petite pause qui nous permettra d'installer le dispositif technique pour la seconde partie de cette soirée. Vous pouvez également sortir de la salle où la librairie Flammarion vous propose les livres de ces auteurs qui nous ont fait le plaisir de nous offrir ces textes.
Avant ça, pardon, mais j'ai un message personnel à adresser à 19 écrivains qui sont venus ce soir et qui ont réussi, pendant le temps qui vient de s'écouler, à parler et peut-être à s'écouter les uns les autres sans devenir fous d'impatience. J'ai un autre message personnel aussi, en quelque sorte, à vous adresser à tous. Il paraît que j'ai l'esprit de contradiction. Enfin, c'est ce que certaines personnes bien informées prétendent, et je voudrais vous en apporter la preuve. Ce matin, je me rendais à une réunion chez notre diffuseur, et j'étais dans le métro, et je pensais à cette soirée, et je me suis dit, mais pourquoi cette soirée est-elle intitulée « Un air de famille » ? C'est complètement idiot. Après, je me suis souvenu que j'avais, pour ainsi dire, eu cette idée-là, moi-même. Et donc, je suis resté perplexe. Et je voulais vous faire part de cette perplexité. Parce que, comme vous l'avez remarqué, Un écrivain, un auteur, c'est quelqu'un d'absolument unique. C'est-à-dire qu'ils ont beau être assis tous ensemble ce soir, chacun d'eux est d'une singularité absolue. Ils sont tous vraiment très, 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 très différents. Et en même temps, ils sont là ensemble. Mais alors, est-ce que ça forme une famille ? Non. Non, c'est pas une famille. Parce que on ne choisit pas sa famille. Dites-moi si je me trompe, mais à mon avis, on ne choisit pas sa famille. C'est comme ça. Or, ces auteurs ont choisi d'être publiés dans cette maison d'édition. Et nous avons choisi de les publier. Donc, nous nous sommes mutuellement choisis. Moi, ça me fait plutôt penser à quelque chose d'autre qu'on appelle l'amitié et qui suppose une forme de liberté réciproque. On choisit ses amis ou on est choisi par ses amis ou les deux. Donc je voudrais adresser mes remerciements les plus sincères à ces 19 amis plus un 20e absent. Il y a aussi, me dit quelqu'un, je ne sais pas qui a murmuré, il y a aussi Adam Thirlwell, mais Adam Thirlwell c'est tout à l'heure. Oui, toujours du point de vue de pour développer brièvement cette question de l'esprit de contradiction, j'étais censé également vous parler de la ligne éditoriale des éditions d'Olivier. Et je m'en excuse, mais je ne peux pas vous en parler parce que je ne suis pas totalement certain qu'il existe une telle chose. Pour des raisons assez analogues, finalement. Alors, je sais bien que tous les auteurs qui ont vu un de leurs manuscrits refusé par un éditeur sont au courant que ça existe, puisqu'en général, dans ces cas-là, on reçoit une lettre disant « Nous avons beaucoup aimé votre admirable manuscrit, mais malheureusement, il ne correspond pas à notre ligne éditoriale. » C'est comme ça que j'ai découvert l'existence de ce qu'est une ligne éditoriale, parce que il m'est arrivé souvent d'en parler avec des confrères, d'autres éditeurs. Et en général, quand un éditeur dit à un autre « C'est quoi ta ligne éditoriale ?» dit bah, « Tu sais très bien ce que c'est, je publie les meilleurs livres des meilleurs auteurs. » Et alors évidemment, le problème, c'est que tout le monde n'a pas exactement la même idée de ce qu'est le meilleur livre et de ce qu'est le meilleur auteur. Mais je voulais simplement insister sur cet étrange paradoxe pour vous dire que au bout du compte, on est reconduit à cette notion d'une liberté qui fait qu'on se choisit. Hein, on choisit son éditeur, on choisit l'auteur qu'on publie. Et donc je voulais simplement conclure cet immense collage littéraire, à la fois par ses remerciements et par cette affirmation de ce qui nous fait tenir ensemble, je crois, et qui est cette liberté que nous avons eu plaisir à partager avec vous ce soir. Merci.